les podcasts de Radio Courtoisie. Chronique réactionnaire d'Yves-Marie Adeline, les prophètes de l'apocalypse financière.
Régulièrement, on entend sur nos chaînes, et pas seulement des chaînes contestataires, parfois aussi des médias de connivence, des grandes gueules, dirons-nous, annoncer pour demain matin l'apocalypse financière. Ne citons pas des prophètes de droite pour ne pas fracturer notre camp, chacun les reconnaîtra. Citons à gauche M. Attali, qui, il y a déjà 3 ans, avait prévu, je cite, une immense crise financière pour l'été 2023, que nous attendons toujours. Churchill disait que la prédiction était difficile, surtout s'agissant de l'avenir. Cette boutade doit ici nous servir à mieux appréhender les cycles économiques, étant bien entendu que l'économie de marché repose en partie sur la confiance qu'elle inspire aux investisseurs. Par exemple, lorsqu'en mars de cette année-là, nous avons assisté à la faillite de la Silicon Valley Bank, suivie d'autres faillites de banques très impliquées dans le secteur high-tech, en réalité, il n'y avait pas de raison de céder à la panique comme M. Attali et de croire que la contagion pourrait s'étendre aux autres secteurs, ni même seulement au système bancaire mondial. On a beaucoup entendu dire que les leçons de la crise de 2008 n'ont pas été apprises, que la finance est de nouveau laissée à elle-même. Or, la gestion de la crise engendrée par la faillite de la Silicon Valley Bank l'a bel et bien empêchée d'infecter le système tout entier, ce qu'on appelle une crise systémique. Il faut dire en effet qu'après 2008, une succession d'accords internationaux, Bâle 1, 2 et 3, ce dernier signé en 2010, mis en place en 2019, se sont donnés pour objet d'adopter des principes de fonctionnement qui permettraient d'éviter une nouvelle déroute. Par exemple, l'exigence d'un ratio de solvabilité des banques de 10,5%. Or, la Silicon Valley Bank et les autres établissements emportés par le krach de 2023 avaient fait le choix de ne pas s'assujettir aux règles internationales. Par exemple, la part des dépôts non assurés y était de 85%, contre moins de 30% dans le système bancaire français. Puisque nous parlons de la France, restons-y. Au moment du krach en Californie, le ratio des fonds propres était dans notre pays de 15,5%, donc très au-dessus des 10,5% adoptés par l'accord de Bâle III. Reste la gestion de la crise. Il est vrai que l'on peut trouver, parmi ceux qui nous gouvernent, des pompiers pyromanes pour jeter sur le feu de l'essence qu'ils prendraient pour de l'eau. Les parlementaires européens, les commissaires européens ou notre proverbial Bruno Le Maire quand il était ministre de l'économie sont de cet acabit. Mais heureusement, cela ne s'est pas produit. Aux États-Unis, la Federal Deposit Insurance Corporation a tout de suite garanti l'intégralité des dépôts des banques faillitaires, même pour les comptes supérieurs à 250 000 dollars, ce qui était d'ailleurs le cas de la majorité des dépôts. En Suisse, les autorités ont injecté des liquidités et facilité le rachat du Crédit Suisse par UBS, en offrant là aussi des garanties substantielles, tout en précisant bien que la plus grande partie des pertes serait à la charge des actionnaires. De fait, les investisseurs dans le Crédit Suisse ont bu la tasse. Telle est la loi de notre système. À intervalles réguliers, couvrant environ 10% du temps, une purge se produit pour modérer la spéculation qui mécaniquement a tendance à gonfler comme une bulle, précisément parce que les marchés financiers ne sont pas rationnels, mais se développent sur la seule confiance. Et cette confiance peut être excessive, ou le devenir. Ainsi convient-il de considérer avec précaution les analyses, certes rationnelles et même brillantes, de certains commentateurs qui ont souvent de bonnes raisons de prévoir le pire. Mais ils théorisent dans un domaine où les acteurs du marché sont conduits par leur confiance, donc par leurs émotions. C'est justement pour cela que les accords de Bâle ont prévu des garde-fous à ces émotions par nature irrationnelles. Ainsi, sachant que les crises occupent environ 10% du temps cyclique, nos cassandres de l'économie se trompent 9 fois sur 10, mais de même qu'une pendule vous donnera toujours 2 fois par cycle la bonne heure, il arrive nécessairement un moment où les événements leur donnent raison. Est-ce de l'anticipation ? Pas vraiment, c'est au contraire du statisme. Vous campez sur le cadran de la pendule, marquant par exemple 2 heures, et une fois par jour, une fois par nuit, votre prédiction se réalisera. Bien sûr, cela ne doit pas empêcher d'examiner avec circonspection certains problèmes économiques contemporains. Ils sont plusieurs et n'ont pas toujours de lien entre eux. Par exemple, aujourd'hui, le Japon, quatrième économie mondiale derrière l'Allemagne, dont la dette atteint 250% du PIB, un chiffre extravagant, mais il convient de le préciser, une dette détenue à 92% par les Japonais eux-mêmes, ce qui est très différent, par exemple, de la dette française détenue majoritairement par des créanciers étrangers. On sait cependant que sa population est en baisse continue, donc vieillit, donc consomme moins. Par ailleurs, ce pays est en décadence économique à cause de la montée de la Chine, qui a effacé les effets de dumping qui avaient tant profité à l'archipel nippon durant plusieurs décennies entre les années 50 et 90. Également à cause d'une crise immobilière qui, à bien des égards, ressemble à celle de la Chine aujourd'hui. Enfin, à cause d'une dépréciation du dollar depuis 1985 qui a ruiné la créance japonaise. Il faut dire que le Japon est le premier détenteur de la dette américaine, devant la Chine elle-même. Eh bien, cette fois-ci, c'est encore la relation avec le dollar qui risque de poser un nouveau problème. Ce qui fait craindre une crise, c'est que les marchés ne prêtent plus au Japon. S'il ne peut plus entretenir son endettement, le pays va devoir vendre sa dette américaine. Donc vendre des dollars contre des yens qui seront destinés à racheter sa dette. Une vente qui d'ailleurs ne sera pas si profitable puisque la valeur de sa créance a baissé dans un contexte de remise en cause progressive du dollar, notamment par la Chine, mais pas seulement, par l'Arabie, par la Russie, qui de toute façon ne peut plus s'en servir à cause de l'utilisation politique que l'Amérique en a faite. Bon, de toute façon, le Japon n'a pas d'autre choix que de vendre son épargne constituée d'obligations américaines pour renforcer le yen et venir au secours du pouvoir d'achat de sa population. Mais cette vente va affaiblir le dollar. Donc les États-Unis n'ont pas eu d'autre choix que de hausser leur taux d'intérêt pour attirer les créanciers. Cette hausse aura évidemment un effet négatif sur la croissance américaine parce que les crédits seront plus difficilement accessibles, donc l'argent, dont la circulation est comme le sang dans le corps, viendra à manquer, provoquant des thromboses dans l'appareil de production de l'autre côté du Pacifique. Les commentateurs intervenant sur nos chaînes de connivence aujourd'hui n'ont vu dans cette hausse des taux qu'une folie sans la regarder avec un peu de recul. Mais on voit bien que la Fed n'avait pas le choix. Voilà un seul exemple. On pourrait en donner d'autres plus généralement, constater que les valeurs boursières excèdent la production réelle de richesses. Donc un jour ou l'autre, une purge douloureuse se déclenche. Mais la crise ne vient pas toujours du secteur que l'on prédisait.
C'était Chronique réactionnaire d'Yves-Marie Adeline, les prophètes de l'apocalypse financière. Les podcasts de Radio Courtoisie. Retrouvez-nous sur podcast.rc.fr et n'oubliez pas de nous soutenir sur soutenir.rc.fr.